RCF.
Bonjour, nous retrouvons notre ami Jean-Pierre André, membre de la Société d'archéologie et d'histoire du Berry, secrétaire de l'association des anciens du 95e Berry et 85e Berry, pour nous entretenir de l'année 1915 à Bourges et dans le Cher. Nous ne parlerons pas des opérations militaires, mais du quotidien, de l'arrière, comme on disait. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Bernard.
Alors, ma première question. Comment la ville de Bourges s'est-elle préparée à cette guerre, ou plus précisément, s'attendait-on à ce conflit, Jean-Pierre ?
Non. Non, je réponds d'une manière abrupte, non. Enfin, ça ne ressort pas sur les comptes rendus que l'on peut lire dans les archives départementales venant du commissariat municipal qui parle du climat dans la ville en début jusqu'à la mi-14. Ça ne paraît pas non plus dans les journaux locaux. La ville suit son petit train-train de petites villes de province, s'intéresse aux événements nationaux comme par exemple l'affaire Caillot, s'intéresse aux événements extérieurs dans les Balkans. On sent que ça va pas bien dans les Balkans. On s'intéresse aux élections qui ont eu lieu en avril, si ma mémoire est bonne, avril 14, élections législatives. Mais non, on n'a pas l'impression que la population sent venir la guerre.
Alors justement, est-ce que les premiers mois de guerre ont-ils modifié les habitudes des Berruyers et Berrichons, sachant quand même que Bourges était une ville de garnison avec un certain nombre de régiments? Est-ce que vous pourriez un peu nous rappeler l'importance militaire de Bourges, qu'on oublie souvent?
Alors Bourges était un nœud essentiel dans l'organisation militaire de la France. C'était le chef-lieu de l'état-major de la 8e région militaire, qui en temps de guerre forme le 8e corps d'armée. Elle était également le siège des états-majors de la 16e division d'infanterie, de la 8e brigade d'artillerie. Elle avait dans ses murs un régiment d'infanterie, le 95e RI, deux régiments d'artillerie, le 37e RA et le 1er régiment d'artillerie, qui étaient des régiments d'artillerie de campagne, le 37e RA étant un régiment d'artillerie de campagne de corps d'armée, c'est-à-dire très étoffé. En temps de guerre, je crois que c'était 48 canons de 75 mm. Je me fie à ma mémoire, j'assisterai pas là-dessus. Et puis, nombreux autres services qui sont les services normaux qui soutiennent un corps d'armée, la prévôté, l'intendance, etc. Il y avait plein de...
Alors justement, en juillet 14, il y a combien à peu près de militaires avant la mobilisation? À peu près. Ça correspond à combien de régiments?
Ça correspond à trois régiments, plus à quelques états-majors de divisions, de brigades, etc. Pas tellement, finalement. Un régiment d'infanterie en temps de paix, c'était 1200-1300 hommes, qui montait à 3300 sur pied de guerre.
Alors justement, pour l'année 1915, je pense qu'à Bourges, il y a beaucoup de militaires.
En 1915.
Est-ce que la ville s'habitue à la guerre aussi?
La ville est rentrée de plein pied dans la guerre.
Alors justement.
Alors, elle s'y habitue, elle se fait à la situation. Les problèmes étant nombreux à résoudre. Il y a les problèmes d'hébergement des réfugiés belges et des réfugiés de l'Est qui sont arrivés en masse par train entier, qu'il a fallu héberger. Il y a le problème de l'hébergement des ouvriers employés à l'effort de guerre dans les établissements militaires qui ont gonflé d'une manière absolument énorme. Il y a également les problèmes d'approvisionnement de la ville. On a des problèmes de police. on a évidemment tous ces gens qui arrivent en masse dans la ville créent une animation qu'il faut canaliser. Il y a également un fonds militaire encore important à Bourges. Il y a tous les dépôts des régiments qui sont restés dans la ville. Les dépôts des régiments, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hommes certainement, qui sont en permanence dans la ville et qui ont pour objet de former les nouvelles recrues avant de les envoyer dans leur unité au front et de servir en quelque sorte de réservoir tampon, si je peux dire ça comme ça, pour compenser les pertes sur le front.
Donc on peut imaginer une ville en pleine activité.
Ah, une ville en plein bouillonnement, oui.
Bouillonnement.
Ah oui, 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 oui.
Avec un problème de place pas possible pour l'hébergement.
Gros problème d'hébergement.
Avec un gros problème d'hébergement.
Gros problème d'hébergement. Problème aussi un peu de ravitaillement. Il faut nourrir tous ces gens. Le coût de la vie a augmenté d'une manière démesurée. Les autorités sont obligées de prendre des mesures pour limiter les appétits de certains négociants qui profitent de la situation pour faire mousser les prix d'une manière totalement indécente.
Alors justement, avons-nous des documents, des témoignages sur la vie des berruyers et berruyères pendant cette période ? Autre question un petit peu plus... Pouvons-nous percevoir un désenchantement, une inquiétude, de la tristesse avec le nombre de tués, de blessés qui touchent nombre de familles ? Est-ce que vous avez, dans vos recherches, dans la presse, dans les rapports de police, est-ce que vous avez perçu un peu cette tristesse ou cette résignation ?
Parlons de résignation éventuelle des habitants. Ça n'apparaît pas dans les textes, bien sûr, les journaux locaux, notamment, notent scrupuleusement les décès survenus sur le front. Et même au début, on cite les noms, les lieux, les unités, etc. Bien vite, la censure va peser là-dessus et on ne citera plus que les noms. Toutes les actions de l'armée française sont présentées comme des actions glorieuses. J'ai souvenir de la retraite entre Sarrebourg et la Mortagne en fin août 14, au cours de laquelle a été livrée une bataille dans le petit village de Matexé, qui a été une déconfiture pour l'armée française, enfin notamment pour notre régiment, et qui est présentée dans les journaux comme une victoire due à l'impétuosité de nos soldats qui sont partis avant que les officiers puissent donner les ordres. Enfin bon, c'est présenté d'une manière très, très valorisante pour la furieuse française.
On appellerait ça un peu du bourrage de crâne.
C'était un peu du bourrage de crâne. C'est propre à tout conflit. Hein.
Ma dernière question, qui va peut-être vous paraître futile, Jean-Pierre, mais qui a été un gros souci lors de la Seconde Guerre mondiale. Y a-t-il eu des restrictions pendant cette Première Guerre mondiale à Bourges ? Des restrictions
au niveau
ravitaillement, par exemple.
Il va y avoir bientôt des tickets de rationnement. Ça va arriver. Je n'ai pas en tête si c'est arrivé en 1915. C'est possible que sur certains produits essentiels, des tickets de rationnement soient arrivés, notamment pour des produits comme le beurre, la viande, et puis les produits exotiques, bien sûr, qu'il fallait faire venir de l'étranger, enfin de nos colonies, par exemple, alors qu'on avait bien autre chose à faire venir que ça, notamment des hommes.
Soyons un peu plus joyeux. Est-ce que, pendant cette période, à Bourges, il y a des spectacles, est-ce qu'il y a des spectacles ? Est-ce qu'il y a des concerts, de l'opéra, de l'opérette
Je ne sais.
Alors.
Oui, bien sûr, la vie continue quand même. Hein. Alors, on a par exemple les tournées barrées qui continuent à venir périodiquement présenter des spectacles à Bourges. On a sur la place Sérocourt, je crois que ça c'était en 1914 plutôt, je ne suis pas sûr que ça existait toujours en 1915, on avait dressé un grand chapiteau et on présentait des séances de cinématographie. Et au cours de ces séances de cinématographie, on présentait des petites séquences avec un appareil qui s'appelait le chronophonographe, qui était déjà une ébauche de ce que pourrait, ce qu'allait être bientôt le cinéma parlant, et qui consistait à synchroniser l'image et une parole enregistrée qui donnait une illusion de vie au cinéma muet. Ça, c'était prisé, bien sûr. Hein.
Très prisé.
Oui. Ce qu'on voyait plus, c'était les concerts militaires qui avaient lieu avant la guerre, au moins une fois par semaine, par une ou l'autre des musiques des unités qui étaient dans Bourges, soit le 95e RI, soit le 1er RA, soit le 37e RA, soit l'école d'artillerie, puisqu'il y avait une école d'artillerie qui avait sa musique. Enfin bon, il y avait une vie culturelle qui s'était, bien sûr, un petit peu essoufflée. Là, hein.
Oui, tout à fait. Une vie, quand même, on peut constater, on observe, pardon, que véritablement, Bourges était une ville militaire.
Bourges était une ville au service de l'armée, enfin de la guerre.
De la guerre.
De la guerre.
De la guerre, oui.
Par les hommes qu'elle avait fournis pour les unités qui sont allées sur le front, mais aussi pour l'armement. Bourges était quand même un des arsenaux de la France, et notamment en matière d'artillerie.
Est-ce que c'est à Bourges que l'on fabriquait le fameux 75 ?
À Bourges, on a fabriqué de nombreux canons de 75.
Alors, oui, 75 principalement ?
75 modèle 97.
Voilà, d'accord, très bien. Les détails sont très très précis. Hein. Est-ce que c'était à Bourges que l'on construit les pièces lourdes d'artillerie ? Non.
Alors, à Bourges, on faisait à peu près tout, je pense. On faisait les tubes,
hein, voilà.
Les tubes, les liens élastiques, qui étaient la partie noble de l'artillerie, qui permettait le tir avec recul du canon. On fabriquait aussi les munitions. Non seulement les fabriquer, mais on étudiait les munitions. Donc il y avait trois établissements principaux à Bourges. L'atelier de construction, qu'on avait appelé quelque temps auparavant à sa création la fonderie, et qui était chargé d'étudier et de fabriquer l'artillerie, les canons. Il y avait l'école centrale de pyrotechnie, qui était chargée d'étudier et de fabriquer les munitions, mais aussi tout ce qui est artifice, j'oserais dire farce et attrape. Hein. Et puis, une commission d'expérience qui est devenue l'établissement technique de Bourges, et aujourd'hui DGA Technique Terrestre, qui était chargée d'expérimenter toutes ces armes.
Merci encore Jean-Pierre pour ces explications passionnantes sur la vie de l'arrière à Bourges et dans le département pendant l'année 1915. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre fidélité à notre émission « La vie militaire à Bourges et dans le Berry », animée par Agora Défense. Et bonne poursuite de votre journée à l'écoute de RCF.